Je suis au tempo et je suis très content que pour la toute première interview de cette émission d'information de Radio U à Morlaix, ça va être avec le groupe Cancre. J'imagine que tout le monde le connaît ici, mais pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, le groupe Cancre, ça quoi, ça date d'il y a à peu près 5 ans, il me semble. Donc le groupe Cancre, ce sont deux frangins, les frangins Milasso, avec toi, Robin. Bonjour Robin.
Salut, bonjour tout le monde.
Et donc l'autre frangin, c'est Mathias. Et puis le troisième du groupe, c'est Florian Pardigon. Cancre, groupe relativement brut, relativement rock, en français, avec des textes, je sais pas, je dirais. Ouais, assez puissant. Vous avez fait une tournée, pas mal remarquée, première partie de Matmata, etc. La concert au Sioux le 3 octobre, à domicile. Est-ce qu'on peut commencer par remonter le temps et parler du début du groupe? Et je pense qu'en parlant du début du groupe, on va parler d'un autre groupe aussi, Wicked.
C'est ça, en fait, t'es très renseigné, c'est bien. Et oui, il y a eu au tout début un groupe qui s'appelait Wicked. C'était un trio, power trio de garage rock en anglais. Donc avec ça, on était toujours mon frère, moi, et puis un autre batteur qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Clyde Bayer, avec lequel, enfin ce groupe, avec ce groupe-là, on a pas mal écumé tous les petits clubs, garage et autres en France, donc pendant 4-5 ans. Et puis suite à ça, il y a eu un virage en français, avec un premier album, et puis là un deuxième album qui arrive d'ici peu. Un premier single déjà qui est sorti, qui s'appelle Qui arrêtera la pluie. J'en profite pour faire mon autopromo.
Mais t'as bien raison, on va en reparler. Mais avant ça, moi je voulais savoir comment il s'est fait ce virage en français, c'est parti de quelle envie?
À l'époque, pour ce premier album, ça a été la découverte d'un recueil de poèmes du frère de mon arrière-grand-père, en fait, donc, qui nous a lancé sur cette idée du français. Donc voilà, on a fait tout un album autour de ça. Et là, ce deuxième album a pas grand chose à voir, que ce soit au niveau de l'esthétique, des paroles comme de la musique. On est sur quelque chose qui a été beaucoup plus produit là, qui est peut-être plus pop, un peu moins rugueux justement que ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais voilà, dans lequel on s'est éclaté, puis on est très très fiers de ce deuxième album, vraiment.
Ouais, bah effectivement, il part très bien. Mais avant d'en parler un peu plus précisément, moi je voulais revenir peut-être sur les influences du groupe. J'ai lu dans une interview, je crois que c'est Musard qui disait ah, il y a peut-être un peu de Deportivo. T'avais botté en touche en disant bah je comprends, mais ça fait pas vraiment partie des influences. Du coup, je me demandais quelles étaient vraiment les influences pour Cancre.
Bah, ça dépend des albums, des périodes et puis de chacun des membres du groupe. Moi personnellement, j'ai écouté beaucoup de musique jeune pour travailler la musique et autres. Et ça fait longtemps que j'ai pas découvert de grandes pépites, un truc qui m'a retourné. Donc je vais pas avoir une immense curiosité pour ce qui est d'écouter tout ce qui sort de partout. En général, j'ai assez avec ce que je fais moi-même. J'ai les oreilles tout le temps dans le son chez moi. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas trop de recul en ce moment, en tout cas, pour te donner un groupe référence. Mais en studio, je pense qu'on s'est pas mal inspiré pour ce deuxième album des groupes comme False, voilà, ce genre de personnages, en tout cas, et de production. Ouais.
Parce que sur le premier album, moi, j'avais l'impression d'entendre sur certains morceaux des influences un peu à la Bachung. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça passait en fond là, sur ce début d'interview. Bon, même si c'est pas hyper ouf de citer ça comme influence maintenant, mais un peu de Noirdaise aussi. Voilà, il y avait un peu tout ça, non, sur ce premier album?
Ouais, alors c'était pas voulu non plus, donc je pense que ça reflétait ce que moi et mon frère avons écouté dans les années 90, forcément. Après, voilà, ce premier album, il était influencé peut-être plus 90 en effet. Là, ce qu'on fait est peut-être plus dans son époque, en tout cas.
Et donc toujours sur ce premier album, je l'ai dit, vous avez fait les premières parties de Matmata. Moi, je trouve que dans les influences, il y a aussi, pourquoi pas, un peu de Matmata
Ouais, c'est
dedans, non?
possible, hein. On peut mettre tout ce qu'on veut, hein, mais les Matmata, forcément, le bassiste a réalisé tout le premier album avec nous, Eric Diger. Puis c'est tous des potes, on est tous de Brest. Donc voilà, là, c'est bien possible qu'on retrouve des choses dans la production, en tout cas, c'est sûr.
parlons du coup un peu de l'avenir, de ce qui va arriver très vite. Tu l'as dit, un nouveau titre qui est sorti là il y a quelques jours de mémoire, c'était le 18-19, donc qui s'appelle Qui arrêtera la pluie. Tu le disais, un côté peut-être un petit peu plus pop, c'est un peu ça la nouvelle direction là sur cet album?
Je pense que là, sur cet album, on voulait quelque chose, s'écarter un peu de ce truc un peu trop années 90. On voulait quelque chose de plus moderne, nous. On voulait aller fouiller dans des synthés, dans des Moog, dans des séquentiels, dans des... Donc voilà, on voulait aller tailler un peu dans toutes ces textures-là. Donc ce qui t'emmène à des trucs un peu plus produits, forcément. Et donc, oui, un peu plus moderne, on l'espère. Et voilà...
Moderne et en même temps, j'ai envie de dire, avec des trucs presque teintés années 80. Quand on écoute le tout début de Qui arrêtera la pluie, franchement, tu te retrouves presque dans la bande-son de Stranger Things, tu vois, truc un peu comme ça.
Alors je sais plus comment ça a été fait, on l'a doublé avec une petite guitare, je sais plus quelle pédale, reverb, et un synthé qui fait des cordes un peu. Mais oui, ça, on a rajouté pas mal de synthé là dans tout ce qu'on fait. Donc ouais, il y a des touches 80, carrément. Mais voilà, encore une fois, on a tellement eu la tête dans le guidon et encore en ce moment que moi, prendre le recul pour savoir à quoi ça ressemble et à quel groupe l'identifier autre que nous, je sais pas faire.
Et alors, tu le disais hein, sur le premier album de Cancan, donc là, le passage qui s'est fait en français, c'est en retrouvant un recueil de poèmes de, du coup, arrière-grand-oncle, ouais, un truc ça, comme ouais. ça. Là, qui écrit? Comment ça s'est passé pour l'écriture des textes?
Alors, pour l'écriture des textes, j'ai composé toute une partie et on a composé à deux avec David Sanders qui avait écrit déjà des morceaux pour le premier album. Donc là, il y a quelques textes qui sont signés de lui, d'autres qui sont mélangés entre lui et moi et d'autres de moi. Donc voilà, ça s'est fait à deux, grosso modo.
Et tu peux nous dire, du coup, de quoi il parle? Parce que là, quand on écoute « Qui arrêtera la pluie », il y a quelque chose un peu histoire, je sais pas, d'amour et en même temps, une petite réflexion aussi un peu sur la place dans la société, quelque chose comme ça.
Alors, c'est toujours pareil. Je pense que quand on fait, nous, les morceaux en studio entre nous, on réfléchit pas des masses au sens, en fait. On est trop dedans. Et je pense que le sens des morceaux d'un album, on le voit une fois un peu terminé, quoi, sur papier. On donne du sens, en fait, plus que la chose en a forcément d'elle-même. Donc je pense que ça parle d'histoires courantes, en général, que ce soit d'amour ou de mort ou de tout ce qui nous concerne tous. Mais de là, moi, lui donner un sens profond, pareil, dans l'explication, non. Si les gens voient des choses profondes là-dedans, c'est super, mais... C'est pas spécialement absolument réfléchi comme truc. C'est beaucoup d'instinct, je pense.
Et du coup, ton écriture, tu la vois un peu, je sais pas, comme de la poésie, par exemple. C'est comme si tu t'écrivais des poèmes. Après, tu remanies un peu les textes pour que ça colle aux arrangements. Ça se passe comment?
Alors souvent, si moi personnellement, ce que je fais, c'est que je tape plein de choses au moment où j'ai la musique. Et ce texte est rempli de trucs pas terribles, mais en fait dans tous ces trucs pas terribles, à chaque fois je vais peut-être sortir deux phrases que je trouve vraiment cool sur lesquelles je vais buter. Et en général, si j'arrive à synthétiser quelques phrases là-dedans, je vois si je peux en faire un refrain, si je lui trouve une mélodie avec, et ça va se construire un peu comme ça en fait. Un peu du puzzle au final, faut trouver les bonnes pièces qui s'assemblent aux bons endroits quoi.
Et du coup, tu peux nous en parler un peu là de ce prochain album? Ça sort quand? Est-ce qu'il est déjà dans la boîte?
Nous, tout est fait, mixé, machin, masterisé. Il n'est pas encore on l'a pas encore eu en physique, nous, personnellement. Je pense qu'il va sortir cet hiver. Et en attendant, on va sortir des singles, je pense. Donc là, il y en a déjà eu un qui arrêtera la pluie. Il y aura un deuxième, je ne sais pas encore lequel c'est. Voilà, on est en train d'amorcer un peu les premières dates qui vont arriver cet hiver aussi. Donc voilà, tout est en train de se mettre un peu en boucle pour nous en ce moment-là.
Et tu peux nous en dire un peu plus sur toute l'équipe? Parce que là, on a parlé de toi, de Mathias, de Florian. Il y a forcément aussi un gros boulot, il y a un studio derrière, il y a quelqu'un à la prod, tout ça.
Alors oui, donc nous on est trois dans le groupe, trois musiciens, Florian, Mathias et moi-même. Et ensuite en technique, on a un ingé son qui est Sébastien Leroux, qui a son studio, lui, sur Brest aussi. On a un régisseur avec nous qui est Maxou, Max, Disto Max. Et voilà, c'est une super équipe, on s'est bien éclaté sur la dernière tournée tous ensemble. Voilà, et puis ça repart dans les, avec les mêmes en tout cas.
Ok, bah, après tout, quand ça fonctionne, on garde les mêmes et on recommence, quoi, c'est ça.
Exactement, et puis voilà, non, c'est déjà des super conditions de pouvoir se tirer avec un ingé son, un régisseur avec nous. C'est des boulots qu'on a découvert un peu sur la dernière tournée, régisseur, et c'est vrai que ça a pris maintenant une part hyper importante pour nous dans une tournée qu'on va difficilement envisager sans un régisseur avec nous, tellement le rôle est hyper important du gars avec nous, quoi.
Et ben justement, tu peux nous expliquer pourquoi il est si important pour vous ?
Alors, c'est lui qui va gérer avec les tourneurs tout ce qui est la logistique, que ce soit de pouvoir dormir, de pouvoir se nourrir, trouver des hôtels sur la route, trouver une location de camion qui soit la moins chère possible, voir des forfaits. C'est lui qui va vraiment gérer tout ça. Et une fois sur place, c'est lui qui va s'occuper de l'accueil quand on arrive dans les salles. Donc c'est lui qui va aller tchatcher direct avec les directeurs ou le régisseur sur place, voir où est-ce qu'on peut se mettre, où est-ce qu'on cale notre matos, où est-ce qu'on bouffe, où est-ce que... Il gère un peu tout pour qu'on ait à penser, nous, au moment J où on doit être sur place, quoi, ouais, à jouer. Donc voilà, c'est du confort incroyable. Hein.
Ouais, en fait, je te demandais ça, ça sous-entendait, parce qu'avant, vous vous démerdiez tout seul pour faire tout ça.
Ouais, avant, moi, j'avais déjà tourné avec Craftsman Club, où il y avait des conditions un peu similaires, mais avec Wicked, non, c'était tout nous-mêmes, mais on s'est éclaté, hein, on avait la vingtaine, c'était génial.
On parlait en tout début d'interview, il va y avoir une date, c'est le 3 octobre au Sioux. À quoi s'attendre ? Vous allez jouer des anciens morceaux, des nouveaux aussi, j'imagine. L'idée, c'est peut-être de défendre un peu l'album à sortir.
Ouais, alors nous, on je pense qu'on va essayer de jouer tout l'album et on va rajouter un ou deux morceaux de l'ancien album. Donc voilà, et après, les gens qui veulent venir, venez, parce qu'on va pas rejouer après avoir un petit moment, avant que la tournée démarre vraiment, c'est-à-dire en février, mars, un truc comme ça. Donc ça va être un peu la seule occasion avant quelques mois de pouvoir découvrir l'album en fait avant qu'il sorte même et tout ça. Donc voilà.
Et vous n'allez pas rejouer avant février pour des questions logistiques, parce que vous avez besoin aussi de faire une petite pause. Des fois, on a besoin de faire une pause entre le taf sur l'album, etc. Bien préparer la sortie avant de se lancer dans la tournée.
Ah oui, bah oui, ça c'est sûr. Mais c'est pas une pause personnelle pour nous, glander rien faire. C'est plus une pause, en effet, pour que les tourneurs et notre label maison de disques, en gros, s'organisent pour gérer les dates, combien on va être vendu, combien il va y en avoir. Voilà, pour que tout le planning puisse être prêt au moment où on est censé sortir l'album et partir sur la route.
Est-ce que du coup, ce concert-là du 3, c'est un peu, on va dire, le test grandeur nature ? C'est la première fois que vous allez dévoiler l'album et du coup, un peu d'attente, quoi, de votre part ?
Ah bah, pour nous, oui, il y a gros stress, forcément, parce que c'est on est à la maison. Voilà, l'album il est pas sorti, il y a que des gens qu'on connaît, j'imagine, dans la salle, enfin beaucoup en tout cas, et on sortira tout juste de résidence, donc ça va être hyper frais pour nous, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça se fasse mal après.
Je me demandais, est-ce que ça te met plus de pression ou moins de pression au contraire de jouer à domicile, comme tu dis, devant quasiment tous les copains, la famille, etc.
Mais c'est le pire, je pense qu'une fois que tu fais ta première date à la maison, tu peux jouer à l'Olympia le lendemain et t'as pas peur, hein. C'est clair, ou moins.
Tu veux dire que les copains jugent plus facilement ou sont peut-être plus durs dans les retours, dans les critiques, parce que, je sais pas, ils vous connaissent, ils ont envie aussi de vous... Enfin voilà, quand je dis la critique, c'est aussi une critique positive pour s'améliorer et tout, quoi.
Il y a les deux dans les critiques, à toi dire, mais forcément... si tu fais une connerie quand t'es chez toi, le lendemain, t'as moins envie de sortir dehors. Alors que si tu le fais à Saint-Étienne, tu t'en fous, quoi. Tu peux rentrer chez toi comme un prince.
Je voulais finir cette interview, Robin, vu que bah voilà, Radio U débarque à Morlaix, etc. Vous êtes un groupe, j'ai envie de dire, emblématique là, de la scène rock morlaisienne, quand même. C'est quoi la place du rock, selon toi, à Morlaix ?
En fait, il y a pas mal de... Si les gens font pas spécialement du rock, ils sont assez rockers, en tout cas, dans l'âme. Et Je sais pas, je pense pas trop à ces trucs-là. Forcément, je vois bien que les groupes de rock, c'est un peu moins à la mode, quoi qu'on a l'impression que ça revient aussi pas mal en ce moment. Mais bon, faut pas trop se préoccuper de ces histoires et puis essayer de faire ce qu'on aime, surtout, voilà.
Et du coup, ma dernière question, mais tu l'as un peu devancé, c'était est-ce que Morlaix, c'est une ville de rock ou c'est une ville rock?
Je pense que c'est plus une ville rock qu'une ville de rock, voilà.
Ça marche. Bah, merci beaucoup, Robin. Et puis, très, très bon concert, le 3. Bonne première pour cet album.
Tu seras là, peut-être?
Bien sûr.
Et ben voilà, super.
Pourquoi tu regardes avec tes yeux mordus? Je te dis qu'il pleut. Qui pleure. Circuler, y'a rien à voir que le ciel gris au-dessus de ma tête. Je te dis qu'il pleure. Dans le flou de tes yeux.